Merci, le Christ, de m'avoir invité. En préparant la conférence, je me disais, au fond, je ne dirais jamais que je fais de la sociocritique, mais m'est revenue une conférence de Marc Angenot il y a 25 ans à Ottawa, quand j'étais au bac.
Ne rajeunis pas.
Non, mais moi non plus, je peux remarquer. Et je me suis dit que peut-être si je n'avais pas entendu Marc Angenot parler ce jour-là, je n'aurais peut-être pas fait ce que je fais maintenant. Donc quand même, je me souviens que ça avait été un moment important pour moi. Donc, je vais vous parler des... Enfin, je vais partir des filles en série pour déployer un peu ce que j'ai envie de commencer à creuser sur le Boys Club. On parle beaucoup de parité parce que, bon, à cause des élections qui s'en viennent, vous avez peut-être vu circuler sur le web la page « Décider entre hommes » qui est assez parlante. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel je vais écrire. Et je vais essayer d'entendre ce que le Manifeste du Christ appelle, en fait, décrit comme une rumeur sociale. Donc, c'est un peu à partir de là que je vais... m'en réfléchir, et c'est le début d'une nouvelle recherche, donc voilà. Je commencerai donc avec une citation de Nelly Arcand, tirée du début de Putain. C'est la toute première phrase du récit, donc après le prologue qui est en italique. « Oui, la vie m'a traversée. Je n'ai pas rêvé. Ces hommes, des milliers, dans mon lit, dans ma bouche, je n'ai rien inventé de leur sperme sur moi, sur ma figure, dans mes yeux. J'ai tout vu, et ça continue encore, tous les jours ou presque, des bouts d'hommes, leur queue seulement, des bouts de queue qui s'émeuvent, pour je ne sais quoi, car ce n'est pas de moi qu'ils bandent, ça n'a jamais été de moi, c'est de ma putasserie, du fait que je suis là pour ça, les sucer encore, ces queues qui s'enfilent les unes aux autres, comme si j'allais les vider sans retour, faire sortir d'elles, une fois pour toutes, ce qu'elles ont à dire. » On le sait, Putain met en scène une femme parmi tant d'autres, une femme qui ne compte pas, ou qui est laissée pour compte, au sens où elle n'est bonne que pour consommation. Une femme comme toutes les autres dans le marché des femmes, mais une femme néanmoins qui est la seule, unique parmi tous les hommes, ce monde de Monsieur Tout-le-Monde qui circule dans un studio sur Dr. Penfield. Pierre, Jean et Jacques, des noms usés d'hommes sans importance, infiniment interchangeables comme les putains qu'ils fréquentent, pour le dire avec Arcand. La narratrice de Nelly Arcand fait aux hommes dans son livre ce qu'elle les accuse de faire aux femmes dans la vie, les prendre et les jeter, les remplacer par une autre. Dans cette autobiographie d'une femme parmi tant d'autres, elle fait le portrait en creux des hommes. Elle fait ce qu'on pourrait appeler une biographie des hommes, tous autant qu'ils sont. J'aime qu'ils ne soient pas trop à leur aise, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette pièce, que d'autres y sont encore un peu, qu'ils ne sont qu'un point perdu dans la série des hommes qui passent et qu'ils se retrouveront en tas, indifférenciés, sur le plancher. À la sortie des filles en série, on m'a beaucoup demandé, « Et les hommes? Qu'en est-il des hommes? Est-ce qu'ils ne sont pas, eux aussi, en série? » J'ai envie de commencer tout doucement à répondre à cette question, non pas pour faire dévier la conversation féministe, comme j'ai eu l'impression que c'était le cas au moment de la sortie du livre, quand on me demandait « et les hommes » pour faire entendre que le cas des femmes n'était pas si singulier, qu'il ne méritait pas qu'on lui porte une telle attention, que le féminisme était passé date et que c'était quelque chose peut-être un peu comme du caprice. J'ai envie de commencer à répondre à cette question pour poursuivre la conversation entamée en changeant cette fois de point de vue, c'est-à-dire non pas en nous regardant être vus, mais en tentant de voir qui sont ceux qui nous regardent. Dans les filles en série, je proposais qu'on voit les filles en série comme une figure statique, une figure imposée, une figure qu'il faut réussir pour être vraiment une fille, devenir une vraie femme. Des filles ensemble, côte à côte, alignées, toutes semblables, qui bougent en harmonie. Des filles mannequins, filles poupées, filles statues, qui sont là pour être belles. Des surfaces, un spectacle, des parures, purs ornements. Il s'agissait pour moi de repérer cette figure pour voir comment elle formate les femmes, comment elle les fabrique en tant que femmes. Voir d'abord comment le féminin est produit, entre autres, par la figure des filles en série, et ensuite déplier cette figure afin d'y trouver un potentiel de résistance. Mais s'il s'agissait dans les filles en série de faire apparaître une figure qui me semblait passer inaperçue et qu'il fallait apprendre à repérer, j'ai envie ici d'essayer de penser une figure par trop visible, si prédominante qu'elle échappe au regard. On ne la voit plus, on ne l'a peut-être jamais vraiment vue. La figure du Boys Club, la vision des hommes ensemble. Cette image omniprésente, sommes-nous véritablement capables d'en prendre la mesure? Le Boys Club est non seulement principalement masculin, investi par des hommes, il est ce par quoi la masculinité devient ce genre, ce sexe, qui n'en est pas un, parce qu'il représente tout le monde. Le Boys Club fait de l'homme l'universel. Il fait que le masculin l'emporte sur le féminin, et on pourrait dire sur tout le reste. Mais ce n'est pas seulement ou simplement, l'existence des hommes qui leur accorde du pouvoir, c'est comment ils sont ensemble. Si les filles en série étaient d'abord figées pour ensuite se mettre en mouvement, le Boys Club évoque d'emblée le mouvement. Il est le lieu de la relation. Le Boys Club est plus qu'une figure, il est un moteur. Il n'est pas ornemental, mais structurel, à la manière des rouages d'une machine, si intégré qu'il n'apparaît pas, caché par sa propre visibilité. Le Boys Club est tout et partout. Il est ce qu'on nomme le patriarcat ou la domination masculine, et dans tous les cas, une organisation où les hommes sont hiérarchiquement supérieurs aux femmes, où ils sont sujets et elles objets, et où ils se les échangent. Mais cette structure ne correspond à rien si on ne prend pas en compte les hommes entre eux. Non pas la masculinité en tant que telle, ou l'homme comme individu, moins le boys que l'idée même du club. Si la figure des filles en série se déployait de telle sorte que les filles se libéraient d'un carcan, devenaient actives et transgressaient la loi de leur immobilité, je veux voir le Boys Club comme une figure à la fois immobile dans son immanence et toujours déjà en mouvement par le réseau qui la sous-tend. La masculinité est invisible, mais un de ses visages, c'est celui du regroupement. On imagine mal une série d'hommes debout, les uns à côté des autres, pour faire joli. Les hommes n'ont pas besoin de se donner en spectacle, écrit Nelly Arcand. On les imagine plutôt tourner les uns vers les autres, formant un cercle fermé, liés les uns aux autres par une relation qui a tout à voir avec le pouvoir. La fabrique d'un pouvoir qui dit qui est le plus fort dans cette immense cour d'école qu'est notre monde. Pour le dire comme Virginia Woolf dans Trois Guinées, nous voyons bien le même monde, mais avec d'autres yeux. Ou Simone de Beauvoir. De même qu'en Amérique, il n'y a pas de problème noir, mais un problème blanc. De même que l'antisémitisme n'est pas un problème juif, c'est notre problème. Ainsi, le problème de la femme a toujours été un problème d'homme. Il s'agit donc d'autre chose ici que de s'intéresser à la masculinité en tant que telle. Il s'agit de penser la masculinité dans cet état, on pourrait dire naturel, qu'est le groupe. Car qu'est-ce que le Boys Club, sinon d'abord et avant tout un groupe? Le Boys Club, c'est une organisation qui traditionnellement exclut les femmes et est contrôlée par des hommes. C'est un groupe d'hommes âgés et fortunés qui détiennent un pouvoir politique. Le Good Old Boys Club est un groupe de personnes en position de pouvoir qui se sert de ce pouvoir pour leur propre bénéfice et le plus souvent indirectement. En Angleterre, c'est un réseau d'hommes issus des écoles privées de garçons, ces boys qui, après avoir reçu leur diplôme, devenaient les Old Boys. Dans le sud des États-Unis, le boy est un homme qui incarne la familiarité et la sociabilité expansive typique des hommes blancs vivant dans des petites villes ou des zones rurales. C'est une expression, finalement, qui renvoie au souhait de préserver les élites sociales. Comme on dit, ce n'est pas ce que vous savez qui compte, c'est qui vous connaissez. Le Boys Club est un groupe serré d'amis hommes qui se protègent entre eux. Le club est un type de regroupement bien précis. Il ne s'agit pas d'une foule au visage indistinct, mais bien d'un réseau, d'un clan, d'une famille, d'un régiment, d'une équipe, d'un concile, d'une fraternité, d'un gouvernement, c'est-à-dire d'un groupe dont les membres sont liés entre eux, dépendant les uns des autres, se rapportant les uns aux autres et unis par un intérêt commun, une croyance partagée, un idéal auquel tous adhèrent. Il faut réentendre ici les mots de Michel Foucault. Le pouvoir, ça n'existe pas. Je veux dire ceci, l'idée qu'il y a à un endroit donné ou émanant d'un point donné, quelque chose qui est un pouvoir, me paraît reposer sur une analyse truquée et qui en tout cas ne rend pas compte d'un nombre considérable de phénomènes. Le pouvoir, c'est en réalité des relations, un faisceau plus ou moins organisé, plus ou moins pyramidalisé, plus ou moins coordonné de relations. Il faut entendre les mots aussi de Michael Kimmel sur la masculinité. One must engage masculinity critically as ideology, as institutionally embedded within a field of power, as a set of practices engaged by groups of men. Et ce, enfin, de Pierre Bourdieu. La virilité est une notion éminemment relationnelle, construite devant et pour les autres hommes, contre la féminité, dans une sorte de peur du féminin et d'abord en soi-même. On pourrait dire que tout a été dit sur les hommes, mais en même temps, rien n'a été dit. On constate l'absence des femmes, on pense leur effacement ou leur domination, leur humiliation, leur sacrifice, mais est-ce qu'on est capable de penser l'omniprésence masculine? Cette surprésence, peut-être qu'elle ne se pense pas, puisqu'elle est partout à la fois, si importante qu'elle en devient imperceptible, si visible qu'on ne la voit plus. Ce que Virginia Woolf appelait le pouvoir hypnotique de la domination, et qu'on pourrait décrire comme l'état de fait d'une non-mixité masculine. Alors qu'on a fait tout un plat, vous vous souviendrez, le printemps dernier, quand des filles voulaient organiser des manifestations entre femmes non mixtes. Ou encore, pour le dire avec le critique Todd Reeser, on pourrait parler d'idéologie de la masculinité. Dans son essai « Masculinities in Theory », Reeser s'attarde à l'invisibilité de la masculinité, au fait qu'elle est perçue comme invisible ou rendue invisible par les hommes. La masculinité est « unmarked », écrit-il. Elle est anonyme, banalisée, au sens où on le dit des voitures de police, par exemple. Elle est sans tache, immaculée. Le plus souvent, les hommes sont considérés comme étant sans genre, genderless, de la même façon, par exemple, que les Blancs sont perçus comme non racisés. Comment, demande Reeser, par quels moyens la masculinité passe-t-elle inaperçue? Comment distrait-elle l'attention? Et comment parle son silence? C'est logique de voir la masculinité comme une idéologie, affirme Reeser, parce qu'elle concerne des subjectivités liées ou perçues comme liées au pouvoir. Qui plus est, aucun groupe à proprement parler ne peut être considéré comme responsable de la création de la masculinité. Certaines institutions, l'armée par exemple, ont un intérêt à la promouvoir, à la renforcer, à jouer de sa mise en évidence. Mais de façon générale, la masculinité est cette chose dont on sait qu'elle est partout, mais sans qu'on s'y arrête expressément. C'est une chose sur laquelle le regard glisse. Le masculin, tout comme le féminin, bien sûr, est le résultat d'images, de mythes, de discours, de pratiques répétées jusqu'à plus soif et donnant l'impression qu'il s'agit d'un état naturel, originel, qui ne doit pas être interrogé. Mais ce qui est peut-être différent en ce qui concerne la masculinité, et on devrait sans doute ajouter blanche et riche, c'est qu'elle est ce par rapport à quoi le reste, les autres, sont évalués. La masculinité est l'étalon. Elle est une sorte d'état parfait, complet, l'un, dirait de Beauvoir. D'où le lien que Reeser établit entre les hommes et la liberté. La masculinité est étroitement couplée avec l'idée de liberté et avec l'économie capitaliste qui veut faire croire en une liberté première et absolue, le self-made man, par exemple. D'où l'importance de tant de figures d'hommes seuls, qu'on pense au cow-boy, au Marlboro man, au célibataire, au voyageur solitaire, au tueur en série, à l'homme d'affaires ou à l'homme politique, souverain, tout en haut de la pyramide du pouvoir, tant de mad men, icônes de liberté. Ou encore plus près de nous, cet homme, dont on a tant cherché à expliquer et défendre la misogynie et les excès de violence, et qu'on voit courir à la fin du film Le Mirage, devant un paysage idyllique, parfaitement seul, dans la nature, enfin détaché de tout. Être libre et seul serait le sens même de la masculinité. Et ses qualités auraient pour effet de lui retirer son caractère idéologique, la liberté prenant le pas sur toute détermination à être d'une certaine façon, c'est-à-dire à être un homme. La solitude a à voir avec une conception de la masculinité qui renvoie à un sujet non seulement unique, singulier, mais qu'on imagine être en pleine possession de son identité. Elle renvoie aussi à la construction de la masculinité à partir du groupe, un ensemble d'individus qui possèdent la même chose, la représentent, en qui on se reconnaît, en qui on doit se reconnaître et à qui on s'associe. Car il y a des bénéfices à être un homme. Comme l'écrit Reeser, « If you allow power to make you into what it wants, you will receive the benefits of masculinity in exchange. » Les hommes sont dans la masculinité dans un mouvement d'aller-retour entre ce qu'ils sont en tant qu'individus et ce qu'ils sont en tant qu'hommes, participant à la compréhension générale de ce qu'est un homme. Ils auront tendance, suggère Reeser, à ne pas voir la masculinité comme une idéologie et donc à ne pas comprendre l'importance du féminisme, par exemple, d'où la question « et les hommes, eux ?» alors que les femmes, si souvent coupées du boys club, auront tendance, elles, à la voir ainsi. Et peut-être encore plus, parce que les femmes sont nécessaires à l'institution de la masculinité, tout comme l'inverse est vrai aussi, à la différence près qu'en général, dans cette comparaison, le féminin est dévalué ou utilisé pour magnifier le masculin. Si le masculin l'emporte sur le féminin, et pas seulement dans la langue française, s'il est d'ores et déjà perçu comme universel, c'est en oubliant que le féminin lui est en somme consubstantiel. Le masculin ne peut pas se penser en soi, il dépend de cet autre pour apparaître, et au final, on a ce que la déconstruction nous a bien montré, une série d'allers-retours entre masculin et féminin, à la place d'une véritable opposition qui figerait hommes et femmes dans des essences immuables, ce que Research nomme « a continual process of not me's », pas moi. Ainsi, la masculinité n'est pas, on devrait dire plutôt qu'elle coexiste. C'est chaud ici, hein? Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans ce processus de non-moi, au lieu de se tourner vers le féminin, bien souvent, le masculin cherche des yeux le masculin. La fabrication du masculin opère peut-être moins dans le vis-à-vis avec celles qu'on identifie comme étant des femmes, qu'il s'agisse ou non de bio-femmes d'ailleurs, que dans le vis-à-vis avec ceux qu'on reconnaît comme étant les autres hommes, peut-être même les vrais hommes, regardés et reconnus, idéalisés, internalisés et émulés, justement parce qu'ils ne sont certainement pas des femmes. D'où l'importance des hommes, non pas en série, regardant tous devant, mais des hommes en groupe, se regardant entre eux, autour d'une table de conférence, comme pendant le caucus d'une partie de football. Et si un corps militaire parade ou se tient à l'attention de manière cérémoniale, les corps masculins alignés les uns à côté des autres et les uns devant les autres, reste que l'intérêt de cette organisation a à voir avec le « greater good » d'une mission, ce Dieu sans visage qu'est la nation ou le capitalisme. Qu'on pense à la performance VB39 de Vanessa Beecroft, où, je ne sais pas si vous connaissez son œuvre, donc elle fait tenir des femmes en général nues ou presque nues, on les regarde s'effondrer au fil de la performance. Elle a fait la même chose avec un corps de US Navy SEALs, donc elle les a fait tenir, mais eux, ils ont tenu. C'est-à-dire, ils ne se sont pas effondrés. Donc, au final, les hommes y perdent autant que nous. Pour le dire avec Virginie Despentes, le capitalisme est une religion égalitariste, en ce sens qu'elle nous soumet tous et amène chacun à se sentir piégé, comme le sont toutes les femmes. Des hommes entre eux, donc. L'expression « entre hommes » évoque de façon courante des rapports homosexuels ou homoérotiques. L'expression « d'homme à homme » renvoie, elle, à un face-à-face qui non seulement exclut les femmes, mais convoque le pouvoir. L'ordre dominant, où le discours entre hommes est d'une teneur particulière, voire d'une valeur singulière. À la fois menace et mise au point ultime, le « d'homme à homme » a pour objectif de tirer les choses au clair une fois pour toutes. Mais ce qui m'intéresse dans ces expressions, c'est le pluriel. Si j'ai avancé que les filles en série disent que les filles sont des filles parce qu'elles sont en série, ici, j'ai envie de voir comment le pluriel, entre « hommes » au pluriel ou « d'homme à homme », indique qu'au fond, les hommes, eux non plus, ne sont jamais seuls. Même le Marlboro Man, le cow-boy ou le célibataire, menant des vies solitaires, ne sont jamais vraiment seuls. Être un homme ne serait peut-être jamais une chose qu'on est ou qu'on fait tout seul. Un homme serait toujours lié à et pris dedans, emprisonné par d'autres hommes, c'est-à-dire aux prises avec cette masculinité que Research décrit. Alors qu'une femme s'inscrirait d'emblée dans une série, réduite à la reproduction mécanique, le pouvoir des hommes serait tributaire du groupe dont ils font toujours déjà partie. Despentes écrit dans Kingdom Theory que s'ils aiment parler des femmes, les hommes, c'est que ça leur évite de parler d'eux. Détourner l'attention par cette triangulation que d'aucuns ont qualifié d'évitement du désir homosexuel. Le marché des femmes serait ainsi la pierre de touche de ce que Luce Irigaray nomme l'homosexualité avec deux M. Cet état de fait où c'est la sexualité des hommes, leurs désirs, leurs fantasmes qui dominent, mais surtout où, par l'entremise d'un objet de désir commun, les conflits, la violence et l'envie entre hommes sont évités et le club consolidé. L'objet de désir ici, c'est les filles en série, la figure autour et à travers et à partir de laquelle circule le désir entre hommes et s'organise le boys club. Cette organisation en temps de guerre sert l'État. Qu'il s'agisse de la Deuxième Guerre mondiale, comme chez Virginia Woolf dans Trois Guinées, ou de la guerre contre le terrorisme, comme chez Susan Faludi dans The Terror Dream, ce boys club bien particulier qu'est l'armée, hypostase de la masculinité, prend pour prétexte la protection et donc la possession des femmes. Dans ce cas, les hommes se battent entre eux, au nom d'une nation, d'une religion, pour protéger des intérêts communs, et à la place des femmes, qui, elles, porteuses d'utérus, sont en charge de reproduire ce pourquoi on se bat. « It's a man's world », chante James Brown, « but it would be nothing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness, he's lost in bitterness. » On se souvient qu'au début du deuxième sexe, Simone de Beauvoir écrivait, et je cite, j'ai plusieurs citations un peu longues. « Un homme n'aurait pas idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles. Un homme ne commence jamais par se poser comme un individu d'un certain sexe. Qu'il soit homme, cela va de soi. » C'était en 1949. En 87, Marguerite Duras disait à Jérôme Beaujour, « Si vous êtes un homme, votre compagnie privilégiée dans l'existence, c'est celle de l'homme. C'est dans cette humeur-là que vous accueillez les femmes. C'est l'autre homme, l'homme numéro 2, qui est en vous, qui vit avec votre femme. Mais le grand homme qui est en vous, l'homme numéro 1, n'a de relation décisive qu'avec ses frères, les hommes. » Et Virginie Despentes, en 2006, « Comment explique-t-on qu'en 30 ans, aucun homme n'a produit le moindre texte novateur concernant la masculinité? Eux qui sont si bavards et compétents quand il s'agit de pérorer sur les femmes, pourquoi ce silence sur ce qui les concerne? Car on sait que plus ils parlent, moins ils disent, de l'essentiel de ce qu'ils ont vraiment en tête. Ils veulent qu'on parle d'eux à notre tour, peut-être. Par exemple, ils veulent s'entendre dire à quoi ça ressemble, vu de l'intérieur, vu de l'extérieur, leur viol collectif. S'ils se baisent à travers les femmes, beaucoup d'entre eux pensent déjà aux potes quand ils sont dans une chatte. Ils se regardent au cinéma, se donnent de beaux rôles, ils se trouvent puissants, fanfaronnent, n'en reviennent pas d'être aussi forts, beaux et courageux. Ils écrivent les uns pour les autres, ils se congratulent, ils se soutiennent, ils ont raison. Mais à force de les entendre se plaindre que les femmes ne baissent pas assez, n'aiment pas le sexe comme il faudrait, ne comprennent jamais rien, on ne peut s'empêcher de se demander « qu'est-ce qu'ils attendent pour s'enculer ?» Mais parmi les choses qu'on leur a correctement inculquées, il y a la peur d'être pédé, l'obligation d'aimer les femmes. Alors ils filent droit, ils renâclent, mais obéissent. Au passage, ils torgnolent une fille ou deux, furieux de devoir faire avec. Il faut quand même lire longtemps que je me défends. Voilà la rumeur que je vais essayer d'entendre aujourd'hui. La rumeur sociale qui me donne envie d'écrire sur ce qui lie les hommes, sur ce que les hommes font ensemble, comment ils restent entre eux. Et une de ces choses, malheureusement, c'est le viol. De nombreuses études le montrent. Quand les hommes violent ensemble, quand ils pratiquent le gang rape, le viol collectif ou les tournantes, ou encore ce qu'on appelle le bukkake, ce qui est en jeu, c'est non seulement leur pouvoir de domination, la transformation d'une femme en objet, mais le lien des hommes entre eux. Violer chacun son tour, sous le regard des autres, s'exhiber, choisir de montrer son sexe, en érection, parler de ce qui est en train de se passer, commenter sur la prise, le plaisir, la performance, poser des gestes sexuels et violents collectivement, et tour à tour, en se regardant faire, autant d'aspects qui pointent l'importance du « être ensemble » masculin. Il faut aussi s'arrêter sur cette pratique dont on a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années au sujet des banlieues françaises, le cas des tournantes, et plus récemment en ce qui concerne les universités, les fraternités, les équipes sportives, sans oublier qu'il s'agit là d'un lieu commun du cinéma porno comme du cinéma grand public, qu'on pense à L'été meurtrier ou à The Accused dont je parlais tout à l'heure, et de la culture prostitutionnelle. On peut penser aux scènes décrites lors du procès de Lille auquel a été mêlé DSK. Dans le viol collectif, qu'il s'agisse d'une agression violente commise à plusieurs ou de ce qu'on appelle un « running train », quand plusieurs hommes passent tour à tour sur la même femme, un acte où la notion de consentement est brouillée, les gestes ont tout à voir avec une homosocialité dont la pierre de touche est le spectacle. Il faut être regardé par d'autres qui à la fois sont comme nous et qui le sont encore peut-être plus que nous. Ils sont contents d'être ensemble, écrit Virginie Despentes dans Baise-moi. Ils échangent de bonnes vannes, ils ont une activité commune, un ennemi commun. Jusqu'où comptent-ils aller pour se prouver qu'ils sont ensemble? Et dans King Kong Theory, quand elle décrit le viol qu'elle a subi avec une amie, une agression sexuelle commise par trois garçons, nous sommes du sexe de la peur, de l'humiliation, le sexe étranger. C'est sur cette exclusion de nos corps que se construisent les virilités, leur fameuse solidarité masculine. C'est dans ces moments qu'elles se nouent. Un pacte reposant sur notre infériorité, leur rire de mec entre eux, le rire du plus fort, en nombre. La vie militaire était une occasion régulière de pratiquer le viol collectif pour la bonne cause. C'est d'abord une stratégie guerrière qui participe à la virilisation du groupe qui la commet, tandis qu'il affaiblit en l'hybridant le groupe adverse, et ce depuis que les guerres de conquête existent. Si Despentes écrit que c'est le projet de viol qui refaisait d'elle une femme, quelqu'un d'essentiellement vulnérable, elle encourage aussi à penser comment ce projet de viol refait les hommes, les remet sans cesse, eux aussi, à leur place. Je la cite encore, « Le viol, l'acte condamné dont on ne doit pas parler, synthétise un ensemble de croyances fondamentales concernant la virilité. » Les viols collectifs sont une arme de guerre connue, sert l'occupation territoriale et la cristallisation du pouvoir politique, culturel, religieux par le biais de cette domination des femmes. On le sait, depuis les bordels nazis jusqu'aux crimes innombrables et innommables commis en Bosnie, au Rwanda, en Syrie, pendant les émeutes plus récemment au Caire, sur la place Tahrir, en Inde, dans les rues et les autobus, une vingtaine d'hommes violant une enfant de 11 ans au Texas, des footballeurs violant une jeune femme inconsciente à Steubenville, en Ohio, et ainsi de suite. Mais le viol est aussi une arme au sein de cette guerre ordinaire, quotidienne et quasi universelle, qui est cette guerre faite aux femmes, comme le dirait Catherine MacKinnon, une guerre qui a autant à voir avec le geste de mettre les femmes à leur place qu'avec le besoin qu'ont les hommes de performer leur genre pour les autres hommes, afin d'être reconnus par eux et appartenir au groupe, à l'équipe, comme dans le cas des sportifs. « Ceux qui m'ont violée ne couinaient pas », écrit Hélène Dufault dans Trauma. « Ils gueulaient, ils braillaient, comme des supporters à un match, comme des entraîneurs sur le terrain, pour s'encourager, pour se donner la force de se surpasser, pour ne pas entendre l'impudeur. » Le cas de Steubenville a fait couler beaucoup d'encre en 2012. L'histoire de cette jeune femme, violée à répétition par des hommes, ses amis, l'agression publique rendue virale par l'entremise des réseaux sociaux. Fortement intoxiquée, la jeune femme de 16 ans a été décrite par ses agresseurs comme ressemblant à un corps mort. They peed on her. That's how you know she's dead, because someone pissed on her. Le cas aussi de Jyoti Singh en Inde, l'étudiante de physiothérapie violée par 6 hommes, jetée et laissée pour morte jusqu'à ce qu'elle décède 13 jours plus tard de la suite de ses blessures. Ces deux cas ont non seulement retenu l'attention à travers le monde, mais suscité un engagement social important. Il faut souligner le rôle joué par Anonymous, figure intéressante en tant que telle, l'homme anonyme dans le contexte d'une histoire de viol collectif, dans l'affaire Steubenville et la sensibilisation qui s'est opérée par la suite en ce qui a trait aux équipes de sport masculin, à la violence sexuelle et au silence qui l'entoure. De même, le viol de Jyoti Singh a donné lieu en Inde à des manifestations sans précédent contre les violences sexuelles faites aux femmes, une mobilisation contre une culture qui culpabilise les victimes au lieu des agresseurs. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les mots utilisés pour parler de ces deux femmes. Living corpse, donc morte vivante, en ce qui concerne Jyoti Singh, et dead girl, une fille morte, en ce qui concerne la jeune femme de Steubenville. Dans une vidéo filmée le soir des agressions par un des témoins, et celle qui a été diffusée par Anonymous, on entend le témoin dire « You don't need foreplay with a dead girl. She's deader than O.J.'s wife. » Donc, O.J. Simpson, la femme qui l'a tué. « She's deader than Kaylee Anthony. They raped her harder than that cop raped Marcellus Wallace in Pulp Fiction. She is so raped right now. » Les viols filmés et diffusés via les réseaux sociaux sont légion, et les suicides de jeunes femmes aussi. Peu de temps après Steubenville, deux joueurs de football de Torrington au Connecticut, ils avaient 18 ans, ont violé deux filles de 13 ans. Leurs compagnons de classe ont écrit sur Twitter « Young girls acting like whores, there's no punishment. Young men acting like boys is a sentence. » La question du nombre de boys dans l'affaire Steubenville a retenu l'attention, tout comme la description de ce qui avait véritablement eu lieu. Puisque la victime était inconsciente, comment savoir ce qui s'était passé? Et quand une femme est inconsciente, peut-on vraiment parler de viol? Reste qu'il y avait des vidéos, des témoins, et qu'au procès, l'un d'eux a affirmé ne pas pouvoir dire si la jeune femme participait ou non aux actes sexuels dont elle était l'objet. Il dira aussi que devant son copain en train de se masturber sur le corps inerte de la jeune fille, il n'a pas été perturbé. Son copain et la jeune fille avaient eu un rapport par message texte. À la lumière de cette relation virtuelle, ce que son copain faisait paraissait acceptable. La représentante de la couronne durant l'affaire, Jane Hanlon, dont le fils était ami avec un des accusés, a dû se retirer du cas. Interviewée par le New Yorker, elle a fait le commentaire suivant. The narrative that goes through these stories is there are dozens of onlookers, she's taken from party to party, she's raped at multiple locations. Understandably, people are outraged when they read that because it makes it look as though there is a whole group of kids who watched and heckled and laughed and participated. That's not true. There are five that behaved very badly, but five is less than 80. Cinq, c'est moins que 80. Mais c'est sans compter les centaines de milliers de messages textes, photos et vidéos diffusés qui pointent vers la jeune fille en train de se faire agresser. Cette jeune fille devenue « the dead girl ». Est-elle morte? Demande le garçon qui se trouve devant la caméra pendant son agression. Elle est aussi morte qu'on peut l'être. Et si elle était enceinte et qu'elle donnait naissance à un bébé mort? Elle est morte, elle est une fille morte. Voilà l'expression qui ponctue des dizaines de fois la vidéo de 15 minutes qui a circulé des milliers de fois montrant la jeune fille inconsciente sur un lit entourée d'un groupe de jeunes hommes parmi lesquels ses agresseurs et des témoins en train de s'amuser. Dans son spécial sexe du mois d'août dernier, le magazine Les Inrecuptibles consacre un article à la pratique du bukkake, ce sous-genre porno où on filme un groupe d'hommes, de nombreux à très nombreux, se branler ensemble et éjaculer sur la poitrine et le visage d'une femme placée au milieu d'eux, le tout aux fins d'une vidéo. L'article les décrit comme des amateurs. Certains veulent s'offrir, et je cite un peu partout là, un plaisir particulier. D'autres disent vouloir se lâcher, ne plus rien calculer, profiter. Le journaliste note les mots d'un des participants alors qu'il arrive dans le parking quelques minutes avant le début du tournage. « J'en peux plus, mec, je sors de la salle de muscu, là. Je suis chaud bouillant. J'espère que la fille a une bonne mutuelle santé parce qu'elle va prendre cher, elle va chier des briques. » Les hommes se retrouvent ensemble. Le tournage va avoir lieu dans un garage, loin des regards indiscrets. Tout le monde s'observe en silence. « Je croyais qu'on venait pour baiser, dit l'un d'eux, mais j'ai l'impression qu'on prépare un combat de boxe. » Ils se préparent tous en se nettoyant avec des lingettes fournies par le réalisateur du film, calent un flacon d'alcool, se palpent le sexe et enfilent une cagoule pour cacher leur visage, question de ne pas être reconnus. C'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus ici. La pratique japonaise du bukkake, qui veut dire « éclabousser d'eau », relève d'une méthode punitive féodale où des femmes jugées coupables d'infidélité étaient aspergées de sperme par les hommes du village. Popularisée par le porno japonais, cette pratique a été reprise en Occident dans le cinéma gonzo. Si dans le cas documenté par les Inroc, les bukkake virent au gangbang, dans les faits, cette pratique a souvent pour but de le remplacer, les hommes jouissant virtuellement du viol collectif de ce qu'ils appellent une actrice. Mais payer 500 ou 1000 euros pour participer à ce tournage, ça se rapproche de l'esclavage, comme le dit Anna Polinar, star du X-Français, qui est interviewée dans l'article. L'ancienne actrice porno Angel Summers, pour sa part, commente « On a le sentiment que les filles de ces vidéos ne savent pas où elles sont, qu'elles ignorent ce qu'elles vont vivre. » Une fille en quelque sorte inconsciente, donc, et toute seule, figure de schtroumpfette, pour reprendre l'expression choisie par Nelly Arcan, entourée de plusieurs hommes masqués. Virginie Despentes raconte elle aussi son viol dans Kingdom Theory. Comment, avec une amie, elles ont fait du stop, se sont retrouvées avec des hommes dans un camion, des gars de leur âge. Comment Despentes avait dans sa poche un couteau et ne s'en est pas servi pendant l'agression. Comment le pire de tout était la peur de mourir, qui se rapproche davantage du trauma de guerre que du trauma de viol, écrit Despentes, tel qu'on le lit dans les livres. Et puis, dit Despentes, cet événement est fondateur, obsédant, impossible à liquider, à épuiser, à vider. Parce que, je la cite, « Derrière la toile du contrôle de la sexualité féminine paraît le but premier du politique, former le caractère viril comme asocial, pulsionnel, brutal. Et le viol sert d'abord de véhicule à cette constatation, le désir de l'homme est plus fort que lui, il est impuissant à le dominer. » Mais ce qui est troublant, c'est l'équivoque du message. D'une part, les hommes seraient menés par leurs pulsions et dédouanés par un état qui leur est naturel, c'était plus fort qu'eux. D'autre part, ils ne sont responsables de rien. Comme l'écrit Despentes, il n'y a vraiment que les psychopathes graves, violeurs en série qui découpent les chattes à coups de tessons de bouteille, ou pédophiles s'attaquant aux petites filles qu'on identifie en prison. Car les hommes condamnent le viol. Ce qu'ils pratiquent, c'est toujours autre chose. Le pendant de la jeune femme violée au GHB, comme la victime, on le suppose, de Steubenville, le pendant de l'actrice inconsciente de ce qui l'attend pendant un boucaquet et qui évoque une sorte de belle au bois dormant, c'est le violeur du type Saint-Esprit. Celui qui ne laisse pas de traces, qui prend les femmes sans qu'elles ne s'en rendent compte, ce qui veut dire sans qu'il ne puisse, lui, être reconnu coupable. Les violeurs ordinaires sont à l'image des tueurs en série, ces tueurs dont les téléséries sont truffées, nos écrans et la publicité accumulant les corps de femmes violées, brutalisées, assassinées, alors qu'on cherche sans cesse le visage des responsables. Qu'on pense aussi à un documentaire comme « The Invisible War », qui décrit le pacte de silence qui entoure le harcèlement et l'agression sexuelle dans l'armée américaine. Là encore, tout est fait pour qu'on ne sache pas qui a commis les actes. Dans un système où la justice se fait entre les quatre murs du système et où les détenteurs du pouvoir ont donc une sorte d'immunité, les femmes sont encouragées à douter de ce qu'elles ont vécu, comme si on les avait mystérieusement violées, dans une reconduction perverse du mythe de l'Immaculée Conception. C'est ce que mettait en scène le film de, 1988, The Accused, long métrage de fiction inspiré d'un cas réel. Le viol collectif de Big Dance, le viol d'une jeune femme sur une table de jeu, là?
Un flipper.
C'est pas du billard, vous savez, quand on tire et puis il y a des boules qui se promènent?
Un
flipper, je pense. Pinball machine, c'est ça. Je sens un peu de... alléger l'atmosphère. Je sais que c'est lourd, mais bon, j'essaie de penser à quelque chose, puis c'est à travers des images qui ne sont pas agréables, mais bon, je pense que ça vaut la peine. Donc, dans The Accused, il y a ce viol collectif, mais il y avait eu... C'est un vrai cas, ça s'était passé dans la réalité. On l'appelle le viol collectif de Big Dance, donc le viol d'une jeune femme sur cette table de flipper, par un groupe d'hommes dans une taverne de New Bedford au Massachusetts. Au moment des faits, les médias avaient condamné le public masculin qui avait assisté au viol à la manière de meneuse de claque. Le film de Jonathan Kaplan, donc The Accused, reprend le récit, mais en invente la suite. Dans le film, la procureure traîne en justice les spectateurs. Car il s'agit bien d'un spectacle, devant un public anonyme. C'est là l'enjeu de la poursuite. Identifier ceux qui ont encouragé le crime, qui ont incité des hommes à violer de façon semblable aux spectateurs d'une partie de hockey, incitant les joueurs à se tabasser. Et au début du film, il y a une scène où on voit la procureure assister à une partie de hockey avec son patron, et le patron encourage les joueurs à se frapper dessus. Donc, tout le film est construit autour de cette image-là. On a dit de ce film que c'était un film de femmes, fait pour les femmes, parce qu'il met en lumière le viol, montre le crime crûment, mais aussi montre ce qu'on fait vivre aux victimes après. Mais on pourrait dire tout autant que c'est un film d'hommes et qui s'adresse aux hommes. Le film retrace l'enquête, le procès, l'action prenant appui sur un viol dont le public sait qu'il a eu lieu, mais sans savoir comment, tout au long du film. Ce n'est qu'à la toute fin, quand le crime est montré en flashback à l'écran, qu'on le voit. Et il est montré tel que raconté par le seul homme qui accepte de témoigner contre les autres, un jeune étudiant membre d'une fraternité et dont un des copains est un des violeurs qui a été accusé, un jeune homme du nom générique de Ken. On voit le viol depuis son point de vue à lui. Certaines critiques féministes ont décrié ce choix cinématographique, jugeant que le film rejouait le crime dénoncé. Pourtant, j'ai plutôt envie d'y voir une interpellation masculine, un encouragement à assister au spectacle, et cette fois non pas comme violeur, mais comme celui qui, justement, n'y participe pas, et donc reste en marge de la communauté des hommes, de ces hommes qui s'encouragent mutuellement à violer une femme. Pendant la scène, on entend les hommes témoins crier, encourager, dicter en hurlant les gestes que les violeurs doivent poser. Get in there, get her, frat boy, hold her down, go fucking get her. Et ça continue, ça dure assez longtemps. Les spectateurs qui vont jusqu'à intimider celui qui résiste en l'accusant d'être gay. Leurs voix se mêlent, on ne sait plus qui est qui ni qui dit quoi. Ils se ressemblent tous, autant les spectateurs que les violeurs, que la caméra montre de dos, culotte baissée, muselant et suffoquant la jeune femme d'une main, lui écartant les jambes de l'autre, pendant qu'elle est retenue de force sur la table par deux ou trois des autres hommes. La scène est répétée trois fois, de telle sorte que les hommes se confondent, ils deviennent un seul homme. C'est là l'accusation la plus forte du film. Un violeur pour tous et tous pour un violeur. C'est aussi ce que pointe le dernier exemple sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui, un exemple tiré de Top of the Lake. Dans cette télésérie, Jane Campion nous situe d'emblée dans un monde binaire, où hommes et femmes habitent des sphères séparées. D'une part, le poste de police est la demeure des fabricants de drogue, des univers masculins. D'autre part, une commune improvisée où des femmes vivent ensemble dans des containers installés dans un endroit qui s'appelle Paradise. C'est quand même beau, ça. Entre ces mondes circulent les personnages principaux. Une détective, Robin, et une petite fille qui disparaît, et donc toute la série porte sur l'enquête. Donc cette petite fille disparue, Tui, que tout et Robin et Tui sont séparés par tout sauf l'expérience du viol qu'elles ont en commun. Tui, la petite fille de 12 ans, née d'un père blanc et d'une mère thaïlandaise, est enceinte. Et Robin, la détective blanche, originaire du village de Lake Top où ça se passe, qui la cherche désespérément. Au fil des épisodes, on apprend que Robin a quitté Lake Top peu de temps après avoir été violée à l'âge de 15 ans par un groupe de garçons, un viol qui l'a laissée enceinte d'un enfant qu'elle a donné en adoption. Au bout du compte, Tui, donc la petite fille disparue au départ, elle va garder son enfant, elle va même assassiner son propre père qui menace de le tuer, et Robin, en retrouvant Tui et en l'aidant à s'occuper du bébé, reprend ses droits sur son histoire passée. Et donc, au centre de Top of the Lake, il y a ces deux femmes dont les histoires sont en écho et il y a surtout leur expérience du viol. Elles forment à elles deux une série et elles ont été violées en série. Elles ont vécu toutes les deux, donc, un viol collectif. Un viol commis par personne, c'est-à-dire par plus d'une personne ou par personne en particulier. Un viol commis par des hommes sans visage. Certes, on apprend à la fin de la série que Tui a été agressée alors qu'elle était sous GHB. Et elle n'est pas la seule, ils sont tout un groupe d'adolescents qui se font, garçons et filles d'ailleurs, qui se font violer. Un viol qui fait partie d'une série de crimes commis par des hommes riches, des hommes d'affaires, donc sur un groupe d'adolescents qui est manipulé par l'inspecteur de police. Et c'est à l'aide du père de Tui. Mais ce que Jane Campion dit me semble bien plus grave. Quand Robin, donc en charge de son cas, demande à Tui, lors de leur première rencontre au poste de police dans le tout premier épisode de la série, qui lui a fait ça, donc qui l'a mise enceinte, Tui écrit deux mots en guise de réponse sur un bout de papier. No one. Le sens de l'expression est multiple. Personne, pas une seule personne, pas une personne toute seule. Et ces personnes, ici, ce sont des hommes. Les Pierre-Jean-Jacques de Nelly Arcan, les joueurs de football de Steubenville, les piliers de bar de The Accused, les hommes d'affaires de Jane Campion, le Boys Club de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà.